Bonjour Sam.
Salut.
Merci de nous rejoindre ici en direct de Lisbonne à la conférence, à quelques mètres de la conférence sur justement l'écosystème Ethereum, comme à l'époque de Letici où on avait eu l'occasion de recevoir quelques acteurs de l'écosystème. Tu travailles chez Blackpool. Là aussi, on a eu l'occasion de discuter il y a quelques semaines avec Lola sur votre rôle et l'objectif de Blackpool. Est-ce que tu peux nous rappeler justement ce qu'est Blackpool et te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Ouais, bah on va revenir un petit peu sur ce que fait Blackpool. À la base, on se qualifie en tant que hedge funds dans les NFT. Donc un NFT hedge funds, donc on va aller faire des recherches sur les différents projets liés aux NFT. On va surtout axer sur les NFT qui vont être yield bearing, qui vont avoir des rewards, on va dire. Et on va essayer voilà, de faire les meilleurs placements pour les contributeurs Blackpool, donc qui sont bah, les gens qui vont acheter et staker du BPT. Donc on sert un petit peu d'intermédiaire pour les gens qui veulent s'exposer aux NFT, alors particulièrement le play to earn, hein, le gaming et ce genre de choses, par l'intermédiaire voilà, de notre écosystème. Donc ils n'ont pas besoin eux-mêmes d'aller jouer à Sorare, d'aller jouer à Axie, d'aller mettre des sommes voilà, assez importante pour se monter une team sur Axie Infinity, par exemple, ce genre de choses. Donc avec Blackpool, ça permet voilà, de démocratiser un petit peu l'accès aux NFT en play to earn et puis un petit peu, voilà, de temps en temps, des NFT un peu plus artistiques, un petit peu plus spéculatifs, mais on est surtout quand même basé sur tout ce qui va être yield bearing et ce genre de choses. Ouais.
Et le rôle de Lola, on l'avait eu l'occasion de discuter avec elle, qui se qualifiait d'ailleurs, c'était très amusant, comme joueuse de e-sport professionnelle. J'avais beaucoup aimé sa définition.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais.
Quel est toi ton job du coup chez Blackpool?
Au début, c'était un peu ça parce que j'ai joué aussi un petit peu à Comet au début avec Lola. On avait fait la compétition blockchain, la première grosse compétition blockchain.
Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce qu'est Comet?
Ah oui, Comet, pardon, excusez-moi. Ouais, Comet, c'était un des jeux blockchain qui. Bah, c'est un peu le jeu d'ailleurs qui m'a fait un peu vraiment rentrer chez Blackpool d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai connu Lola. C'est un jeu très simple, un peu à l'ancienne, un peu rétro gaming du pixel et qui est basé à 100% sur de la blockchain. Donc ils ont construit quelque chose de vraiment à partir de la blockchain et ils en ont fait un jeu. Donc le jeu en soi est très simple, mais la technologie derrière est 100% blockchain. À l'inverse de certains jeux qui va être juste. Un jeu voilà, de D3D avec le début et la fin éventuellement des sessions de jeu qui vont être sur la blockchain, mais là c'est vraiment l'intégralité des actions que tu faisais dans le jeu qui était sur la blockchain.
Okay.
Donc heureusement que c'était sur Polygon, parce que si on devait faire ça sur Ethereum
ça aurait coûté un peu d'argent, ça c'est
ouais, voilà. Et du coup ouais, c'est comme ça que j'ai connu aussi Lola.
En tant que joueur professionnel, du coup tu gagnais parce que l'objectif c'est de générer des revenus sur Blackpool, on y reviendra justement pour les détenteurs de BPT, mais sur cet aspect là aujourd'hui maintenant, du coup quel est ton job, c'est Blackpool?
Ouais, bah du coup, ouais, j'ai complètement lâché un petit peu tout ce qui était l'aspect Comet et tout ça. Non, je fais un peu partie de la team, on va dire, marketing. Parce qu'à la base, moi, je viens d'un background pas du tout blockchain. Je ne suis pas développeur, hein, je n'ai pas codé. Donc, je suis scientifique. Voilà, donc j'ai fait un PhD sur les chimies et physique des matériaux. Donc, pas grand-chose à voir avec ni le gaming, ni la crypto hein, au début.
Mais à force de rencontrer justement voilà, des gens, on comprend qu'il y a de moins en moins, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de rapport à la base avec la crypto et la blockchain qui viennent dans l'écosystème.
C'est ça.
Et tu en es un des indicateurs supplémentaires.
Ouais. Du coup, naturellement, au début, bon, je m'occupais un peu de la communauté. J'étais plutôt, on va dire, entre guillemets, community manager au début quand je suis arrivé. La partie Comet, j'écrivais quelques petites stories sur Comet, ce genre de choses. Et puis après, bah, voilà, de fil en aiguille, j'ai fait un peu plus de choses pour le marketing. Et depuis, ça a un petit peu plus dérivé. Je m'occupe maintenant de ce qu'on a formé, donc depuis quelques, on travaille dessus depuis quelques mois déjà, et là c'est vraiment bien sorti là cette semaine. C'est le labo, donc là où on voulait en venir. Donc le laboratoire, c'est enfin le lab, pardon. C'est un petit peu voilà, j'ai apporté ma façon de faire, qui est une méthode un peu plus scientifique. Sur voilà, comment on va prendre les questions de tous les jours sur voilà, pourquoi on va investir sur tel NFT project et pas sur un autre. Et aussi, un point qui est important, c'est que nous sommes une DAO et on a vraiment pour vocation de devenir une DAO à 100%. Et donc, il faut quand même que la communauté ait un pouvoir de décision sur ces investissements qu'on fait. Donc, par l'intermédiaire du lab, on va mettre en place des outils pour les gens, pour les membres de la communauté, pour qu'ils fassent leurs propres recherches dans les meilleures conditions. On peut mettre à disposition des analyses en tokenomics, par exemple. On va avoir des experts qui vont pouvoir regarder ça. Des analyses sur le gameplay avec des gens qui sont des joueurs de e-sport professionnels. Et une partie peut-être plus finance pour voir si le projet va être pérenne sur le long terme, ce genre de choses. Donc ces outils-là, on les met à disposition de la communauté. Et ensuite, par l'intermédiaire de plusieurs phases dans le laboratoire, donc la prise de contact, les recherches, les publications donc, de ce qu'on appelle un lab report, c'est une page tout simple, un shield en gros, je shield ton projet. Voilà, nous là-dessus, on va commencer à voir ce qui est intéressant, ce qui l'est moins. Et ensuite, on va développer soit un investment proposal, donc une proposition d'investissement, soit la proposition d'une nouvelle verticale, par exemple, d'une nouvelle troupe. Donc. Tout un nouveau développement. Et ça, on veut que ça soit fait par la communauté. Donc pour ça, il faut que ça passe par l'intermédiaire d'une structure. Et c'est ça que sert le labo.
Et donc ça, c'est le labo qui se met gentiment en place. Alors on enregistre ce podcast à Lisbonne. On est le 21 octobre. Donc c'est des choses qui se mettent en place progressivement. Ouais. Et je pense qu'au moment où le podcast sortira dans les prochains jours, on en saura peut-être un petit peu plus d'après les réseaux ou d'après le site web qui devrait sortir prochainement.
Ouais, le site devrait sortir. Ouais, ouais. On a vraiment un site qui va être dans le même style que le site de Blackpool,
okay.
Qui va être automatisé, qui va normalement bien simplifier la démarche, qui pour le moment est un petit peu quand même fastidieuse, faut le dire, parce que pour le moment, voilà, c'est vraiment du trial and error. Les gens vont nous écrire des projets, ouais. On va leur bounce ce qu'on en pense, ils vont le réécrire. Et au final, la finalité pour le moment, c'est un proposal qui fait en général une dizaine de pages sur lequel on va débattre, on va soumettre ça à un vote de la DAO. Enfin, voilà, tout ça, c'est assez jeune. Mais il y a déjà eu un vote successful il n'y a pas très longtemps là.
Donc, mais c'est passionnant parce que je pense qu'on a tous été dans la configuration à une époque où on ne savait pas s'il fallait investir dans ce projet,
ouais, c'est ça.
Alors dans la crypto-monnaie en règle générale ou dans les NFT plus récemment. Et on va, alors nous, on est souvent en live et on a souvent ces questions. Et qu'est-ce que vous pensez de ça et qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors parfois, on répond sur des analyses qu'on a pu faire, sur du feeling ou sur du fondamental. Mais voilà, votre projet, ça sera en réponse à tout. Et encore une fois, moi, j'étais le premier à avoir ces questions-là, à toutes ces questions. Qu'est-ce que vous pensez de ça ou de ça? Et justement, est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes de ce que vous allez regarder quand vous allez donner la réponse à un projet, si c'est les tokenomics, si c'est justement le fondamental, si c'est les tokens, comment ils sont délivrés? Qu'est-ce qu'on regarde pour adresser un rendu à un projet?
Alors, déjà, ce n'est pas forcément les projets qui vont proposer un investissement. En général, c'est les membres de la communauté qui parlent d'un projet qui leur est cher. Pour les projets, on a l'incubateur, mais ça, c'est encore tout un autre sujet. Mais au niveau du labo, la particularité, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui va s'en occuper. Parce qu'une seule personne ne peut pas être expert en tout. Donc, par rapport à votre question de qu'est-ce qu'on va aller regarder, ça dépend en fait de qui regarde. Si on va parler tokenomics, on va avoir notre expert un peu tokenomics qui va regarder, qui va mettre le nez dedans, qui va creuser, qui va aller chercher quels sont les choses à faire attention, éventuellement les problèmes qui pourraient ressortir plus tard. Pour le gameplay, ça va être pareil. On va avoir des joueurs qui vont être assez habitués au système, à l'écosystème, et qui vont donner un avis qui va être un avis intéressé et puis un avis d'expert en fait. Donc c'est jamais une seule et même personne, c'est un collectif, il y a au moins 3 ou 4 personnes qui va aller regarder chaque partie du sujet. Et ensuite nous on va aller rendre ça en fait à la personne qui a déposé le projet initialement. Et on va faire ce qu'on appelle une task force. Donc on va mettre en place quelques membres clés de l'équipe core, de la core team, qui ont les compétences nécessaires pour analyser ce qui va se passer, plus les membres de la communauté que ça a intéressé. Et à terme tout ça sera automatisé.
Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, les projets que vous avez déjà aujourd'hui sur Blackpool, on pense à Axie, on pense à Sora, vous en avez Comet, dont on parlait tout à l'heure.
Ouais.
C'est la core team qui l'a sélectionné. Demain, le but de la DAO, c'est que ce soit la communauté, justement, qui fasse ces choix-là et que vous les accompagniez sur ces envies-là. Quelles sont les nouvelles verticales que vous pourriez explorer chez Blackpool dans une... que ça soit sur une nouvelle forme de jeu ou sur une nouvelle forme de gameplay qui pourrait justement passer au labo et avoir un avis favorable ou défavorable d'ailleurs.
Donc les nouvelles troupes, quoi.
Par exemple.
dans les nouvelles troupes, il y a qu'est-ce qu'on a comme projet qui est en train d'être regardé pour le moment sans lâcher de gros alpha.
Ah, il en faut.
On va faire un petit peu attention à ce qu'on dit.
On a déjà des alphas. Ouais. Je sais qu'il y en a qu'un. Si vous aviez regardé le dernier épisode avec Lola, dans la télé, à un moment donné, il y avait un alpha que je peux dévoiler aujourd'hui parce que ça fait quelques semaines qu'il a été dévoilé. C'est a priori, vous travaillez avec un projet français qu'on a déjà reçu sur Cryptost qui fonctionne bien et qui a un métaverse très, très propre à son univers.
Un genre de bac à sable, quoi.
Est-ce que tu vois un peu où je veux en venir ou pas du tout?
Oui, si tu parles de Sandbox.
Exactement.
Ouais. Non, oui, Sandbox, c'est acté, c'est pas un secret. Hein, mais c'est quelque
ça
chose.
Ça l'était un peu plus à l'époque où on l'a fait avec Lola.
Oui. Bah oui, parce qu'il faut quand même qu'on. Bon, voilà, faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Parce qu'après, si on annonce quelque chose avant de le faire, c'est toujours un petit peu compliqué.
Oui, bien sûr. Voilà.
Donc, pour ce genre de choses, Sandbox, on a acquis un petit peu. Voilà. Un joli land sur Sandbox et puis on va travailler, en étroite collaboration avec l'équipe là-bas.
Est-ce qu'il y a d'autres verticales aussi sur lesquelles, alors sans forcément pour le coup citer de projets, mais des thématiques?
Là tu parlais de la métaverse justement, en métaverse on a OVR, on a un partenariat avec OVR qui est en train de prendre un petit peu de dynamique, là c'est vraiment ça, c'est sympa ce qu'ils font, donc on a acheté la tour Eiffel par exemple, donc ça va nous permettre de faire des expériences, voilà, en réalité augmentée autour de la tour Eiffel, ce qui va être sympa. À terme, je pense que c'est quelque chose qui pourrait devenir yield generating, parce que comme je te disais tout à l'heure au début, on essaye quand même de se focaliser sur tout ce qui va être yield generating et pas trop spéculer, c'est pas tellement l'objectif. Après, avec des choses comme la tour Eiffel, pour le moment c'est un petit peu du spéculatif, dans le sens où il n'y a pas vraiment de yield, mais on peut imaginer que dans le futur, vu comment se développe OVR avec la pub, la location en fait de parcelles comme celle de la Tour Eiffel, j'imagine par exemple Messi qui signe à Paris. Bon, si ça s'était passé l'année prochaine plutôt que cette année, on aurait pu imaginer un Messi de 30 mètres adosser la Tour Eiffel en réalité augmentée, quoi.
Et ça, c'est passionnant parce qu'on en avait justement discuté un petit peu avec Lola, et celle-là où vous vous complétez, c'est qu'elle est vraiment joueuse, même si elle comprend et qu'elle connaît un petit peu tout l'écosystème NFT, DeFi et les projets, parce qu'elle en est aussi fan que toi. Mais là où je trouve ça passionnant, et c'était le sujet de la conférence, parce que les écoles s'intéressent aussi de plus en plus au métaverse. Facebook s'intéresse au métaverse, on a vu qu'il recherchait 10 000 postes. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quelle forme ça prendra, et si c'est une bonne nouvelle ou non, mais en tout cas c'est un signal fort des GAFA qui s'intéressent au métaverse. À quel moment on a des protocoles qui ont de la valeur intrinsèque, qui génèrent des revenus, qui sont ensuite redistribués en fin de chaîne et que je peux retirer dans le DAB du coin de ma rue? C'est assez dingue. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, comment ça marche?
Alors, par rapport au métaverse ou par rapport aux jeux vidéo?
Alors je pense que ouais, c'est les un peu lié finalement, tout à fait. Ouais. Donc, en bout de chaîne, les métaverses, mais dès aujourd'hui, Comet, d'une certaine manière, ou Sora, mais demain, les métaverses avec vraiment la DeFi dans un monde totalement virtuel, mais sur lequel il y a une vraie valeur ajoutée, et que la valeur, elle est dans le protocole et elle n'est pas juste dans la vitrine qu'offre le Web 2, quoi.
Ouais, je vois. Après, pour tout ce qui va être gaming play to earn, la raison pour laquelle les jeux peuvent se permettre d'avoir du yield, c'est parce qu'on se passe de beaucoup d'intermédiaires, notamment au niveau de la distribution, les producteurs et ce genre de choses. Donc il y a quand même énormément de micro-transactions qui sont faites dans le jeu vidéo tous les jours, et cet argent-là, il est à sens unique. C'est-à-dire qu'il va du joueur vers le producteur, une petite partie va aller au développeur, mais la meilleure partie, elle est quand même relativement perdue dans les rouages du manège. Et bon, voilà, c'est présentement comment ça se passe au niveau du Web 2. Après, sur le Web 3, ce qu'on peut se permettre de faire maintenant, c'est de contourner tous ces intermédiaires, et ce qui fait que l'argent, il peut être redistribué d'une façon ou d'une autre. Alors après, certains jeux comme Comet, ils vont redistribuer quand même une bonne partie des rewards. Bon, alors là ils sont en pause parce qu'ils préparent la V2, mais ce qu'ils faisaient à l'époque, c'était ça. C'était, en fait, il y avait des joueurs qui achetaient de nouveaux vaisseaux, ça développait, et au final, quand tu achetais un vaisseau, t'investissais dans le jeu. C'était toi qui faisais le rôle, en fait, de l'investisseur au début, qui faisait la levée de fonds du jeu et qui aidait le jeu à se développer. Et ensuite, tu récupères une partie des bénéfices de ça, du jeu. Après, à quel point certains jeux vont être pérennes dans l'histoire, ça, on verra. Mais il y a un trade-off entre l'investissement, le retour sur investissement, et puis à quel point le jeu va être fun. Et la transition ultime pour moi, c'est quand on aura des jeux qui seront suffisamment bien, suffisamment fun, pour que les microtransactions soient encouragées par le gameplay comme ça l'est aujourd'hui avec les jeux classiques, type Hearthstone, Apex, tout ça. Donc les gens vont y jouer pour le fun, mais il y aura des gens qui vont pouvoir se permettre de tryhard et qui vont pouvoir arriver à en sortir des récompenses assez conséquentes, parce qu'ils vont vraiment poncer le jeu, ils vont vraiment pousser le truc et ils vont récupérer en gros une petite part de ce que le producteur aurait eu si on était sur un jeu classique.
Et c'est tout à fait le rôle de Blackpool, justement, là où vous avez sur Sora, où vous avez sur Comet, des équipes qui sont experts dans leur domaine.
C'est
et
ça.
Puis qui, sur Sora, pour rappeler qu'il y a un Panini, un monde de Panini, à chaque fois on
Fantasy
explique
football.
Comme ça, voilà, Fantasy
ouais.
Football avec des Panini version blockchain unique et transparente, où on peut composer son équipe, et en fonction de ce que fait le joueur dans la vraie vie, eh bien ça impacte un petit peu les résultats. Où là, vous avez, je crois que c'est la plus grosse verticale que vous avez d'ailleurs.
Entre ça et Axie, ouais, ils se tirent la bourre une semaine sur l'autre, mais là, en ce moment, c'est Sorare qui gagne.
La carte rare de Mbappé, notamment.
Qu'est-ce qu'on a en carte bien rare? Mes collègues me tueraient là, de ne pas sortir les noms du tac au tac, mais en Messi,
quelques
je suis
gros
pas sûr.
Messi, je crois pas qu'elle soit encore...
On l'a pas en unique.
Ah,
ouais, on l'a en rare Messi. Ouais, bon, Mbappé, ça a été la star. Griezmann.
Exact.
Voilà, qu'on a gagné contre Griezmann.
Et là, du coup, vous avez des joueurs spécialisés qui font leurs équipes et qui génèrent du coup des gains qui sont ensuite redistribués à tous ceux qui détiennent du BPT des tokens, pour citer celui de Blackpool. Mais voilà comment là, pour le coup, on génère un revenu à partir d'un jeu NFT et avec une équipe qui est dédiée 100% à faire les bons choix.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, sans équipe qui y passe, les trois managers, ils y passent vraiment un temps fou sur ce horaire. Ils analysent absolument tous les matchs de foot. Je crois qu'ils regardent 6 matchs en même temps, hein, les gars. C'est pas le truc tranquille au coin du feu le vendredi soir. Non, ils suivent absolument tout, les blessures, les évolutions, absolument tout ce qui se passe. Et en fait, c'est ça qui permet de pouvoir avoir des joueurs ultra compétitifs. Maintenant, ce qui est bien avec Sorare, c'est que le jeu, il est quand même fun. C'est-à-dire qu'il y a quand même un intérêt au jeu. Il n'est pas que financier, en fait. Ah, forcément, c'est toujours un petit peu la carotte d'aller essayer de gagner une carte rare ou d'aller sortir un Ether de temps en temps. Ça, c'est sûr, ça motive les gens. Mais le jeu en soi est fun. Ce qui permet d'en faire quelque chose de deal-bearing et qui est vraiment intéressant pour des investisseurs qui ne vont pas forcément acheter un Mbappé à je ne sais pas combien, dizaines de milliers de dollars. Mais pour les gens qui ne vont pas pouvoir faire ça, là, on va pouvoir se positionner en intermédiaire.
Et c'est... une licorne française depuis peu, Sorare, qui a levé encore des millions de dollars et qui est capitalisée à 4,3 milliards de dollars. Ça prouve bien qu'il y a un engouement, clairement, sur ces nouvelles technologies. Et là, effectivement, ça lie le foot, ça lie en fait tout ce qui fonctionne.
Oui, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu,
Mais ça porte les couleurs d'un écosystème de NFT et de blockchain, finalement, qui sont peut-être l'avenir du jeu vidéo. Surtout quand on voit ce que vous êtes capable de faire et quand on voit à plus long terme les métaverses et puis la capacité à passer d'un jeu à l'autre, où on sera plus effectivement, et c'est utile, je pense que c'est utile et pour les studios qui n'ont pas qu'une seule source de revenus à l'achat ou à l'achat in-app, et qu'il y a vraiment un écosystème où après on peut imaginer dans un métaverse qu'une fois que tu as mint quelque chose ou que tu as créé quelque chose, tu le revends, ça te sert à toi en tant que joueur, mais aussi au studio qui va prendre une part dessus, comme aujourd'hui c'est le cas des NFT où à la revente le créateur peut toucher une part.
Ouais, c'est sûr, le NFT permet des libertés au niveau du gameplay qu'on ne pouvait pas faire avant, parce qu'en fait le fait de pouvoir réellement posséder les objets in-game, ça permet aussi de développer de nouvelles façons en fait d'appréhender le jeu. Je vois par exemple Guild of Guardians, dont on a déjà voté on a déjà même acheté d'ailleurs, on est investi, on a une des 10 guildes mythiques, et en fait la façon dont ils ont rajouté du gameplay qui n'aurait pas été possible avec n'importe quel autre système de jeu, c'est que les objets dans le jeu, donc là on est sur un type de jeu classique avec des épées, des boucliers, des skins et ce genre de choses, ne sont pas mintés par le jeu. C'est-à-dire que le jeu, il a fait des guildes, il a fait des héros, je crois qu'ils font des pets et puis quelques boosts, des bonus, des choses comme ça, mais si tu veux une épée, un bouclier, il faut le fabriquer. En tout cas, si tu en veux, dès qu'ils soient des NFT, donc ont une rareté suffisante, hein, c'est toujours un peu pareil. Et ceux-là vont être mintés par les joueurs, en fait, ils vont être mintés dans les guildes. Donc en fait, quand tu as une guilde, donc là, quand tu as une des 10 guildes mythiques, en fait, tu as investi dans le jeu et tu t'es mis une position, entre guillemets, de producteur dans le jeu. C'est-à-dire que le yield, là, il vient du fait que nos joueurs, ils vont avoir accès à des objets qui vont être des objets mythiques, qui ne pourraient pas aller minter dans une guilde qui n'est pas une guilde mythique. Donc ça veut dire que le jeu se dédouane de toute la partie « je vais produire les artefacts, je vais produire les jouets », c'est le joueur qui le fait au sein des guildes. Donc en fait, l'intégralité de l'écosystème, il est dans la communauté en fait.
Oui, et c'est là où effectivement c'est assez dingue, c'est d'ailleurs un petit peu dans la même vibe que d'autres projets qui avaient leur crypto-monnaie aussi associée. Tu sais, chacun de la communauté pouvait dire « je souhaite créer tel objet à tel moment ou tel land à tel moment ». Et il y a eu d'ailleurs un airdrop il y a quelques semaines de ce token-là qui a fait beaucoup de bruit, c'est Adventure Gold, je ne sais pas si tu avais suivi.
Oui, j'avais suivi un petit peu de loin, on ne peut pas tout suivre. Mais.
Avec tout ce qui est l'univers Tolkien et tout qui était remis au centre de ce système-là. Et du coup, on a cet été, ce qui a fonctionné énormément, c'est les NFT. Alors il y a les NFT d'art, on en a déjà discuté sur crypto, il y a les NFT liés aux jeux vidéo. Axie Infinity l'incarne,
qui a explosé complètement,
et puis Sora l'incarne aussi avec sa levée de fonds. Et dans les prochains mois, les prochaines années, à Blackpool, au labo, toi personnellement, sur quoi tu vas porter ton attention, sur justement des... Parce qu'on dit souvent, et c'est vrai, on est au tout début de l'industrie, donc on n'a pas encore perçu tout ce qui était possible.
Ouais,
donc je ne peux pas te demander tout de suite qu'est-ce que tu imagines alors qu'on n'a pas perçu tout ce qui était possible. Mais quand même, est-ce qu'il y a des thématiques sur lesquelles tu portes ton attention en te disant ça serait bien que dans ce cercle-là où on pourrait avoir ce genre de choses, qu'il existe ça, et ça-là, qu'est-ce que ça pourrait être? Sur quoi tu portes ton attention là dans ce monde-là?
Alors il y a deux choses sur lesquelles je prête quand même un petit peu plus d'attention. C'est sur le degré de fun du jeu en fait. Parce que pour le moment, on a fait des jeux qui étaient qui sont très bien dans le sens où Axie Infinity est un succès colossal. Maintenant, le jeu en soi est assez répétitif. On n'est pas sur un gameplay à la Zelda. On ne va pas aller passer 16 heures sans promesse de récompense. Donc en fait, je pense qu'il y a une étape cruciale à passer. C'est l'étape où la promesse de récompense sera pas le premier facteur pour jouer à ce jeu-là. C'est que le jeu en soi sera suffisamment fun pour que on y joue. Et même si je ne vais pas faire un gros yield, je vais quand même pouvoir y jouer. Et de temps en temps, si je drop un objet rare parce que j'ai fait une quête pendant tout un week-end, je serai très content. Voilà. Et donc ça, je pense
une conséquence quoi du coup.
Oui, voilà, il y a quand même une conséquence, mais faut pas. Enfin, je pense que.
Ouais, mais c'est la conséquence de je me suis amusé. C'est pas juste l'objectif.
Oui, c'est
de...
ça.
Ouais, c'est
exactement. Ça. Okay. Oui, pardon. Oui, voilà, c'est la récompense en fait, vu que l'objet t'appartient, à l'inverse de d'avant. En fait, on peut imaginer un World of Warcraft ou les Guild Wars, ce genre de jeu, où on grindait tous les soirs pendant 4 semaines pour choper une chance d'avoir un objet épique. Et puis finalement, cet objet-là, il appartient à personne,
jeu.
En fait. Voilà, au jeu.
Au studio, ouais.
Puis il n'existe pas. Si demain, on efface une ligne de code dans le jeu, il n'y a plus rien. Donc, là, c'est la même chose, sauf que comme il y a une traçabilité, qu'il y a le fait de le custodial dans les objets, ça permet d'avoir un écosystème encore plus riche. Et donc le jeu peut se permettre d'être encore plus fun. Et je pense que c'est quand on aura des jeux qui sont vraiment vraiment fun, et c'est pour ça que là je regarde avec attention les nouveaux Guilds of Guardians ou les Star Atlas, même si là on regarde un petit peu plus dans le futur. Je pense que ce genre de jeu a un bel avenir quoi. Et du coup le deuxième point, parce qu'il y en avait bien deux.
Exactement.
C'est les métaverses. Alors les métaverses, tout le monde a un peu sa définition du métaverse.
Casque 3D, réalité virtuelle, mais c'est loin de ça en fait.
C'est assez loin de ça. Pour moi, un métaverse, c'est aussi bon que ce que les gens construisent dessus. C'est-à-dire qu'on va avoir un univers où on va pouvoir plus ou moins faire absolument ce qu'on veut au niveau de la construction. C'est-à-dire que les développeurs vont pouvoir y mettre ce qu'ils veulent. On pourra avoir sur le même univers, sur le même accès, avoir des jeux, avoir des protocoles DeFi, une salle de cinéma pour aller voir un film, n'importe quoi. Et en fait, si on n'a pas pour moi cette espèce de je peux tout faire au même endroit, on n'est pas vraiment sur un métaverse. Au pire, on est sur de l'open space, sur de l'open world, mais c'est pas tout à fait la même chose. Là où j'essaye de retirer un petit peu mes a priori pour pas faire mon boomer, tu vois, c'est de me dire aujourd'hui la réalité augmentée c'est assez difficile, c'est un peu buggy, la VR. Je connais pas mal de gens qui ça fait me faire mal à la tête, c'est pas très abordable. Aujourd'hui, dit comme ça, il y a des choses qui permettent, il y a quand même des barrières à franchir, il y a des verrous à lever. Et je pense que c'est un point à vraiment garder attention dessus, c'est le jour où vraiment ça va commencer à décoller. On va arriver à avoir ce genre de problème. Et là où j'essaye d'enlever mes a priori, c'est que même si aujourd'hui c'est difficile, ça veut pas dire que ça le sera pas dans 5 ans. Donc il faut vraiment qu'on essaye de, voilà, de quand même si pour le moment c'est des débuts difficiles, bah de continuer, de persévérer justement dans ce genre de choses. Parce que je pense que le métaverse a aussi un bel avenir aussi.
Donc le jour où il y a un métaverse qui apporte un peu de fun, on est sûr que Blackpool se positionne dessus.
Ouais, bon, on sera dessus. Ouais. Bah après, il y a Sandbox, hein. Je pense qu'il y aura un petit peu de fun sur Sandbox, mais là tout est à construire. Ouais, il y a ce qu'il faut. Au VR aussi, hein. Il y a du fun, ouais. Dans le VR. Hein. On a une chasse au trésor là en ce moment.
Oui, c'est vrai.
Il reste 3 heures hein, si vous voulez.
Ah oui, mais là on est. Ça sera après, ouais, effectivement, ouais, on n'est pas en tard, direct. Ouais. Donc c'est trop tard pour les gens qui n'étaient pas à Lisbonne. Mais en tout cas. Tard. Pour ceux qui étaient à Lisbonne, il y avait effectivement cette... Ouais. Là, on était clairement en synergie entre le métaverse et la vie réelle.
Ouais, là, ce qu'on a organisé, en fait, c'est une espèce de chasse au trésor. On a une chasse au trésor, en fait, où tous les partenaires qui se sont liés à nous pour cette chasse au trésor ont créé un artefact, voilà, qui ont été disséminés un petit peu automatiquement partout dans la ville de Lisbonne. Et l'objectif, c'est d'aller en récupérer un maximum. Donc, on se balade avec son téléphone à la Pokémon Go. D'ailleurs, on a regretté récemment de ne pas avoir appelé ça Blackpool Go. Voilà, c'est une erreur de marketing.
C'est sur les idées qui viennent après le brainstorming.
C'est ça, ouais. Mais voilà. Donc, c'est ça, c'est l'objectif, c'était d'en récupérer un maximum, un petit Gotta Catch Them All. Et puis, pour la partie Blackpool, en fait, on a disséminé 7 artefacts uniques dans la ville. Et il y a des 7 énigmes à résoudre pour aller savoir où ils sont. Voilà, et ça. Si on arrive à récupérer les 7, c'est trop tard, mais les 7 qui ont réussi à récupérer les 7 artefacts Blackpool ont pris le brunch avec nous sur un bateau.
À Lisbonne, donc.
À Lisbonne, ouais.
Donc, voilà, là, il y a clairement un cas réel entre synergie entre le monde virtuel et le monde réel. Chose qu'on cherche justement à développer, ou en tout cas que les développeurs des studios de demain cherchent à développer et sur lesquels vous êtes attentifs à Blackpool. Merci beaucoup, Sam.
Merci à toi, super, ça m'a fait plaisir d'être là.